François Bernard.
Bonjour, il faut parler de l'esclavage. Cette journée de mémoire nous y invite. C'est l'occasion de rappeler cette période de l'histoire pendant laquelle l'Europe s'est mise en tête d'exploiter les terres que les générations précédentes avaient conquises à la pointe des mousquetons et au prix déjà d'un mépris immense pour les populations soumises. En Amérique, les autochtones ont été malmenés, mais c'est en Afrique que les sociétés coloniales sont allées chercher les bras qui vont l'enrichir un peu plus. Nantes a tenu un rôle majeur dans le trafic d'esclaves. On va évoquer cette journée de commémoration grâce à un livre écrit par un Nantais sur cette période de plus de deux siècles pendant laquelle un demi-million d'Africains ont été capturés et envoyés de l'autre côté de l'océan pour effectuer des travaux forcés dans les champs de café ou de canne. Le livre s'appelle « Retour des Indes » et son auteur, Jean-Paul Barbe, que nous retrouverons un peu plus tard dans cette émission. Nous reviendrons tout à l'heure sur les entrepreneurs nantais qui se sont adonnés à ce commerce, aujourd'hui condamné, mais qui semblait si banal à l'époque. Pour l'instant, montons à bord d'un de ces bateaux négriers spécialement aménagés pour transporter des centaines d'humains captifs sans aucun souci de leur confort. Écoutons le conteur Jacques Adetze nous lire la page 17 du livre dont nous parlons aujourd'hui.
Les chercheurs ont bien sûr établi très tôt un lien entre entassement dans l'entrepont et mortalité, sans parvenir toujours à de conclusions claires. Ce qu'ils ne prennent pas en compte dans leurs statistiques, les dégâts psychiques provoqués, qui altèrent sans doute et la résistance ultérieure au travail, et aussi le minimum d'équilibre psychique nécessaire. Cet aveuglement dans la chaîne négrière, depuis l'actionnaire jusqu'au matelot, est proprement stupéfiant. Chez les armateurs, il est criminel, car ils sont au courant alors que les actionnaires ferment au loin les yeux et que les matelots n'ont pas les moyens d'y remédier.
Alors prenons la mesure précise de cet entassement avec un exemple concret. La Marie Séraphique est un navire qui mesure un peu plus de 20 mètres de long sur 7 mètres de large. Il transporte 300 captifs dans l'entrepont à chacun de ses voyages. Et nourrir une telle foule n'est pas chose simple. Pour comprendre l'opération, retrouvons notre lecteur, Jacques Adetze.
Comment faire alors monter vos captifs sur ce pont deux fois par jour, si ce n'est par groupe de 63 ou plus, soit 9 tonneaux vides sur lesquels on apporte la gamelle de mer, bien connue des matelots, où se rassasient debout 7 ou 8 personnes. Peut-être les tonneaux ne sont-ils pas de règle et les captifs mangent-ils souvent accroupis ou en tailleur autour de la gamelle. Mais alors, ils passent plus de temps au repas. Les gestionnaires de fast-food le savent. Manger debout, c'est du temps gagné et donc de l'argent. Si vous prenez un sablier, une demi-heure, pour faire sortir vos gaillards du monde d'en bas, avant de les y renvoyer, les laisser manger à la gamelle et boire l'eau au bidon, et les faites s'agiter, voire danser au son de quelques musiques. Votre demi-heure sera bien courte.
Voilà donc quelques extraits de ce chapitre intitulé « De l'entassement comme source de profit et d'ennui ». On est déjà au cœur de notre sujet. La traite s'est organisée sans la moindre considération pour ses victimes. L'empathie éventuelle répondait seulement à une logique commerciale. Il fallait prendre garde lors de l'acheminement de la cargaison qu'elle ne dépérisse pas et qu'elle puisse être revendue avec profit à destination. Service minimum donc des armateurs, on entasse les hommes comme des marchandises sans état d'âme. Alors, comment parvient-on à reconstituer les situations comme celle-là et à les décrire de manière plausible ? Quelles sont les sources qui alimentent la réflexion de l'auteur ? Qui écrit pour les esclavagistes ? Et côté esclave, qui raconte ? Comment reconstituer ces sources ? Question posée à l'auteur, Jean-Paul Barbe.
On a beaucoup écrit sur l'esclavage et sur la traite ces dernières années. Fiction, documents, analyses d'historiens, j'ai beaucoup lu. Ne partant toutefois pas sans biscuit, puisque j'étais germaniste, spécialiste de l'histoire des idées et des mentalités au XVIIIe, en Allemagne et en Europe. J'ai gardé de toutes ces lectures les lignes de force, ainsi le répertoire des rapports de capitaine à l'amirauté, à leur retour à Paimbœuf. Mais j'ai beaucoup éliminé, y compris à propos de l'imagerie, car l'espace-temps que je voulais évoquer, c'était le huis clos, d'au moins 80 jours, avec 300 captifs, d'une dizaine d'ethnies et de langues différentes, dont une centaine de femmes et d'enfants, coexistant dans le cloisonnement et la tension extrême avec une trentaine de matelots et une demi-douzaine d'officiers. Exclure donc tout ce qui évoquerait l'enfer des plantations avec leur exploitation à mort. Ici plutôt, un traité de charpente navale de l'époque aide à se représenter ce monde de bois en trois dimensions. C'est aussi connaître, autour des captifs, la situation effrayante des matelots et tout autour la dangerosité de la mer. Déjà, 5 à 10% de morts sur les voyages transatlantiques dits normaux. Stockage et transport de marchandises vivantes, simplement. Mais qui se transforme évidemment en horrible prison, car la marchandise ressent, elle pense. Alors, il faut se renseigner sur ce que sont les univers carcéraux, ce qu'est la détresse psychologique. En l'absence de témoignages directs, faire avec les moyens du bord. Ainsi, esquisser une bande-son, la tour de Babel des langues et l'existence invulnérable de la musique, du chant, du rythme. Mais le livre ne s'appelle pas pour rien « Retour des Indes ». Le huis clos qui constitue la pièce maîtresse n'est qu'un des trois côtés du trafic triangulaire. Présent aussi dans mon livre, les ports français, parmi lesquels Nantes a évidemment une place particulière. Nantes, port grouillant dans lequel la traite n'est qu'une importante dimension. Et très présent dans mon récit aussi, l'avant-port de Paimbœuf, en raison de l'envasement de la Loire, devenu point de départ de la marchandise à échanger contre les captifs et point de retour pour valoriser ces produits coloniaux que l'esclavage rend possible et qu'on appelait des retours d'Inde. Inde toujours au sens d'Inde occidentale, c'est-à-dire les Antilles.
Un des étonnements de la lecture du livre de Jean-Paul Barbe, c'est de constater à quel point la société nantaise de l'époque s'accommode facilement de ce qui semble être un commerce comme un autre. L'auteur suit à la trace un entrepreneur tenté de se lancer dans cette drôle d'affaire.
Je vous vois déjà traîner dans quelques cafés comme celui de l'Europe. Déjà là, place du commerce au XVIIIe siècle. Ou dans quelques sociétés de lecture, où l'on peut discuter entre hommes de bon sens. Vous rencontrez quelques anciens capitaines. Allez jusqu'à Paimbœuf, voir des navires désarmés et choisir celui qui se prêterait à vos vues. Vous portez votre choix sur l'un d'eux. Mettez pied à bord et revenez en compagnie d'un bon charpentier de marine. Ce que vous allez demander est un peu trop facile et presque dégradant pour un vrai charpentier de marine. Lui, sa vie, c'est d'assembler des couples, d'ajuster des bordages, de faire vivre le corps d'un vaisseau. Et vous lui demandez de vous initier à un aménagement vulgaire, destiné à des fonctions serviles. Mais vous payez. Il le fera.
Autre question à l'auteur, Jean-Paul Barbe. La traite négrière était-elle une entreprise comme une autre à l'époque ?
Le trafic des négriers serait-il passé inaperçu dans les ports de Nantes, Bordeaux et bien d'autres, à partir desquels il était organisé ? La discrétion sur ce trafic était en effet de mise. N'imaginons pas sur le quai de la Fosse de nouveaux vaisseaux étiquetés négriers se construire. Ce sont des navires comme les autres. On aménage le pont, l'entrepont, en en délogeant d'ailleurs les matelots, qu'avant d'aborder les côtes africaines. L'équipage, lui, est recruté sans connaître le plus souvent la nature du travail qui l'attend. Seul armateurs et investisseurs savent, et ils sont discrets. Et les nombreux métiers se taisent qui fournissent les marchandises de traite avec lesquelles les captifs seront achetés sur les côtes de Guinée. Et presque pas d'esclaves noirs sur les quais ou en ville, ils sont bannis car on pourrait leur appliquer le principe du droit d'alors. Toute personne foulant le sol français est libre. La traite, ce fut une partie du monde des affaires, une partie comme les autres, valeur en bourse des compagnies coloniales, capital risque, lobbying. Et donc, le discours contemporain, qui en est fait, est laconique et même lacunaire. Cela passe pour une petite partie de l'histoire des transports transatlantiques de personnes déplacées. De fait, il y a eu, au siècle précédent, des bateaux entiers de semi-esclaves blancs, ce qu'on appelait les engagés. Ça n'a pas marché. Alors, on réessaye avec des noirs. Et une fois la traite disparue, on transportera dans presque les mêmes conditions concentrationnaires des coolies chinois ou indiens. Beaucoup plus tard, ce seront des migrants dans un camion frigorifique sur les routes anglaises, dans un autre trafic indigne. Un problème de coût, donc, avec des captifs, produits de valeur et denrées fragiles. Jusqu'où se permettre alors l'optimisation de l'espace? On les serrera un peu plus, mais sans qu'il y ait dommages visibles. Réflexion où aucun cas n'est tenu du moral et du mental des déportés.
Et que disent alors, d'un côté, ceux qui profitent de l'esclavage, et de l'autre, y avait-il des voix pour dénoncer la traite?
Les apôtres de l'esclavage sont muets sur le parcours concret de la marchandise. C'est l'impact économique qui construit leur discours. Les premiers grands écrits anti-esclavagistes, l'abbé de Rênal, s'insurgent surtout moralement contre le fait. Presque pas de mention dans les journaux de bord, juste des petites têtes crépues griffonnées à l'encre en marge pour illustrer la statistique des morts, disons des pertes. Il faut aller au-delà des résumés comptables pour l'amirauter. Et pas de traces de paroles noires, ni de souvenirs de matelots analphabètes. La littérature autobiographique anglophone n'arrive qu'au tournant du XIXe siècle, période clé de l'iconographie et du discours anti-traite. Il fallait donc dépasser les listes de noms, dépasser l'indignation, une morale abstraite, les discours et la mise en scène des films ou BD qui valent pour l'enfer des plantations, mais pas pour le purgatoire du grand voyage. Parier sur la possibilité, même si l'on n'est pas soi-même afro-descendant, d'une identification qui soit opérante. Pour cela, garder l'idéal d'une imagination vivante sous contrôle historique.
On imagine la souffrance de ces captifs arrachés à leur terre, entravés dans leurs mouvements, vivant dans des conditions insalubres, dégradantes, insupportables sûrement.
La danse sur le pont est exigée pour le bon état des corps. Les captifs s'en tapent, ce qu'ils voudraient le plus souvent. Ce serait d'avoir quelques minutes pour rester seul contre le bastingage, accoudé, les mains contre les joues, à regarder l'horizon vide, cherchant malgré tout, sorti d'un coin du ciel, une frégate superbe. Comme disent les ornithologues, oiseau qui signifierait la terre. Ou alors, peut-être le bras autour du cou d'un ami, mais sans doute pas son jumeau d'entrave. Rêve que tout cela. Trop de monde pour trop peu de temps. Et les martelots ont la consigne de ne pas tolérer ceux qui font bande à part, seuls ou en groupe. Circuler, alors, le délit perpétuel, et un geste peut faire tout basculer.
Des conditions inhumaines qui provoquaient régulièrement des rébellions malgré les difficultés et les dangers de l'entreprise. Écoutons quelques extraits du livre à ce propos.
Il faut bien sûr parler des révoltes à bord des négriers. On pourrait presque dire, pas de campagne de traite, nul négrier sans sa révolte. On sait presque tout sur le déclenchement des révoltes, sur leur répression mesurée, car conservant la valeur marchande du plus grand nombre possible des révoltés. Mais elles furent multiples, y compris quand, larvées ou résorbées, elles se soldent par des désertions, fréquentes à principe ou aux Antilles. avec invention, au passage de la grève, que les captifs seront bien appliqués, à la grande angoisse des négriers, car c'est la grève de la faim. Révolte et demi-révolte, avec au loin cette sœur qu'est la mutinerie blanche. Mobile embrouillé, revendication obscure, reconstitution difficile. Le front de la couleur est amer, plus poreux qu'on ne pense. Les noirs libres, embauchés comme marins, y côtoient les captifs si fréquemment enrôlés eux-mêmes pour remplacer un équipage décimé par la maladie, mais aussi blancs se mutinant avec les noirs ou à leur profit. Belle image que celle de ces mutins qui, pillant leur propre navire, éventrent le stock d'indiennes et le distribuent aux captives du bord. Une vraie galanterie. Il faudrait ajouter ici une nuance sur les fréquences. Un certain nombre de capitaines n'ont-ils pas été enclins à terre une révolte à bord quand elle n'a pas eu d'effet sur les chiffres de la cargaison ou le rôle d'équipage ? Leur intérêt est de ne pas faire de vagues. Et que dire des navires simplement portés, disparus, tempête ou révolte, le doute est permis.
On évoquait tout à l'heure l'absence de témoignages pour alimenter la mémoire de ce qu'ont enduré les captifs de la traite. L'adaptation aux nouvelles conditions de vie demandait beaucoup de courage et d'énergie. Le monde basculait et il fallait en prendre la mesure. Mais comment savoir ce qui se passait dans les têtes, dans ces situations extrêmes ?
Aucune trace de parole noire. Alors, comme pour l'indo-européen jadis, va-t-on en reconstituer une et qui soit plausible ? Les pensées des 10 premiers jours en mer sont consacrées uniquement à l'orientation. Peu en devient parole. Où est le haut, le bas, le devant, le derrière ? Où mettre le pied sans marcher sur de la vie ? Comment vivre prisonnier réciproque de son alter enferré ? S'entendre pour manger à 7 autour de la gamelle de mer. Grogner quand l'un mord sur l'espace de l'autre. Mystérieux rire aux éclats quand il y a fausse manœuvre simultanée de l'un ou de l'autre. Vivre en siamois silencieux. Après cette dizaine de jours tâtonnants, de la vraie pensée arrive. Au-delà des 4 dimensions et de la géométrie dans l'espace, surgit l'algèbre des valeurs, le plus et le moins, et la bienheureuse 5e dimension, passé et futur. Alors, savoir à qui parler, avec qui partager. Mon voisin parle-t-il miraculeusement ma langue, de naissance ou d'emprunt, ou à défaut, son voisin ou le suivant. Je vais jusqu'où porte ma voix, qui s'étouffe dans le noir de l'entrepont. Me comprend-il ce troisième ? Beaucoup ? Un peu ? Quelques jours passent. Il arrive même qu'on crée un début de langue tierce. Un pré-créole de mer.
Sur les navires négriers, la condition des hommes est bien documentée désormais. Enchaînés dans l'entrepont, et une heure par jour pour respirer l'air de l'océan et se dégourdir les jambes. Les femmes subissent-elles exactement le même sort ? J'ai posé la question à Jean-Paul Barbe.
Pas facile de parler des femmes, encore moins de leur donner la parole. Et pourtant, elles constituent une partie importante du commerce, jusqu'à un tiers du total des captifs. Elles valent certes un peu moins cher que les hommes, mais sont appréciées pour leur aptitude au travail manuel et comme reproductrices dans les plantations. Les femmes, c'est d'abord un lieu sur le bateau, une variante esclavagiste du gynécée grec. Le navire est divisé en 2 parties séparées par une cloison fortifiée, supposée infranchissable en cas de révolte. Sur le tiers arrière du navire, la partie noble du bateau, le château arrière est le séjour du capitaine et des officiers. En dessous, un tiers de l'entrepont est réservé aux captives, séparés des captifs et vivant dans une insupportable promiscuité. C'est aussi le lieu des enfants, car elles embarquent souvent avec enfants qui sont gardés avec elles. Elles sont soumises, comme on l'imagine, à des prédations sexuelles, moins des matelots séparés matériellement et épuisé physiquement que des officiers. On peut supposer aussi que, moins souvent enchaînées que les hommes, elles ont quelques degrés de liberté, celle de communiquer entre elles, de collecter des informations et de les transmettre aux hommes par des enfants qui jouent le rôle de messagers, libres qu'ils sont souvent, de circuler sur tout le navire. On peut les croire capables d'inventer des actes de micro-résistance, mais elles apparaissent sur les rapports de l'amirauté avant tout comme auteurs de suicides, souvent collectifs, jusqu'à une douzaine de femmes d'un coup, et souvent entraînant dans la mort leurs enfants en bas âge. Plus grande désorientation sans doute que les hommes, étant moins sortis de chez elles, mais aussi impossibilité mentale de supporter leur double servitude, l'héritée et la nouvelle infligée.
Les femmes captives à la disposition des officiers du bateau, voilà un sujet qui n'est pas souvent abordé. Et parmi les questions peu explorées de la traite, celle-ci également. Mais comment faisaient-ils tous leurs besoins ?
Pour les officiers, la chose est réglée. Leur servante d'armes de compagnie vide le pot de chambre par-dessus bord depuis la dunette. Mais les autres, l'équipage a parfois un réduit minuscule troué donnant sur le grand large. Le plus souvent, ils se contentent de faire leurs besoins sur la poulaine, tout à l'avant du bateau, d'où l'appellation facétieuse des gabiers de poulaine. Mais les noirs, les 300, 400 et plus, dans l'entrepont, du vieux baril scié en deux, comment les hisser et qui le ferait? Ou les placer en bas, vu qu'on ne sait déjà où mettre les pieds entre les corps? Comment les intéressés se déplaceraient-ils, qui sont enferrés à deux? Tinette siamoise, déjà trop de vomi et diarrhée à nettoyer une fois par jour à l'eau et au vinaigre. Alors, plus vraisemblablement, sur le pont, à l'occasion de la sortie bi-quotidienne vers le gruau et les fèves, avant ou après les danses forcées, un moment pour ses besoins, dans des récipients aussitôt vidés dans la mer. Sont-ils en cet instant déférés? Comment faire pour empêcher alors les redoutés conciliabules, plus dangereux que jamais? Aucun des armateurs n'en parle dans ses pourtant verbeuses. Recommandation au capitaine.
Les Nantais connaissent bien ce long cheminement qui va jusqu'au mémorial de l'esclavage où se succèdent les noms des bateaux négriers, des noms qui ont changé au fil des époques pour se mettre au goût du jour. Reprenons la lecture de notre livre au moment où la révolution de 1789 donne des idées aux armateurs.
Baptiser son vaisseau le Saïra ou la Liberté, l'égalité, devient atrocement banal et s'en offusquer ne fait pas beaucoup avancer la compréhension d'un tel monde si compartimenté. Tout comme frappent les affichages africains ou exotiques qui relèvent autant d'un exotisme de pacotille, la reine de Golconde, l'alligator. Que d'un désir de se faire bien voir des petits rois marchands côtiers. Reine de Gabindé ou roi Guinguen, on est en droit de s'émouvoir un peu plus de la redondance des noms porteurs de l'idéal de la famille harmonieuse. Le bon ménage, le bon père de famille, etc. Ou trouver de mauvais goût les nombreuses références plus ou moins inconscientes à un univers rococo de mièvrerie. Ainsi, les 40 aimables tels que l'aimable Franchon ou l'aimable Nanon, où l'on atteint parfois l'insoutenable. Ainsi, avec l'heureux captif. On pourrait, au-delà de ce qui est facilement assignable, réserver un sort particulier à des noms qui relèvent de l'humour. Noir, la bouffonne. Le gagne-petit, la mari-galère, la mauvaise rencontre, la plaisanterie, où le fantasque est peut-être là, pour dédouaner le monde sordide des trafiquants.
Un monde sordide en effet, aux mœurs brutales, avide de s'enrichir au prix de la négation de populations incapables de se défendre. Qu'est-ce qui a pu convaincre l'auteur de ce retour des Indes d'enquêter sur cette période controversée de l'histoire de l'humanité et dont la ville de Nantes a été un acteur de première importance? Retour à Jean-Paul Barbe et à cette dernière question. Pourquoi avoir écrit ce livre?
Obscurité des origines. L'idée de ce livre dormait sans doute, avant que ne s'enclenche son écriture. Certes, l'enthousiasme pour les colonies transmis aux garçonnets d'avant-hier a donné un fond indélébile, mais l'esclavage était un sujet que j'ai abordé en tant que germaniste à propos des croisades esclavagistes dans les pays baltes, en particulier durant le Moyen-Âge, à travers la pensée d'un grand intellectuel allemand qui a vécu consciemment dans la Nantes négrière, Johann Gottfried Herder, et aussi dans le projet nazi de colonisation de l'Est de l'Europe, avec réduction par génocide, famine ou esclavage des populations slaves. Puis intervient le déclic. Un écrivain allemand, Volker Braun, invité pour une lecture à Nantes, tient à visiter le mémorial. Très impressionné, il écrira un pamphlet poétique sur la dureté de la colonisation allemande en Papouasie. Je le traduis et décide de me remettre au courant des recherches sur le sujet. Je m'aperçois que beaucoup de sources sont désormais numérisées, dont un inestimable répertoire des voyages de négriers. Alors, les choses viennent presque d'elles-mêmes, sous la plume. Il n'y a plus qu'à attendre la chance qui survient avec un éditeur attentif. Et à l'auteur, le miracle de l'écriture une fois réalisé, il ne reste plus qu'à souhaiter, et à son livre, cet autre espoir que le lecteur, la lectrice, aidé par le flux d'un récit, transforme les compassions, les colères et les hontes en lucidité et vigilance, autant pour repenser avec humilité nos relations aux Outre-mer que nous possédâmes, que pour percevoir les multiples résurgences de l'esclavagisme moderne.
Jean-Paul Barbe, auteur de « Retour des Indes, portrait fantôme d'un négrier », c'est aux éditions Hémisphère. Le livre est illustré par Axel de Dietrich. Voilà, c'est la fin de cette évocation d'un livre qui nous rappelle à notre devoir de mémoire. L'esclavage organisé à grande échelle de cette époque est une tache sombre dans l'histoire de l'humanité. Banal aussi, puisque l'esclavage concerne encore des millions de personnes dans le monde. La page de la traite coloniale est tournée, mais le souvenir doit rester, et la commémoration aussi. Merci à l'écrivain Jean-Paul Barbe, au conteur Jacques Adetze, de leur participation à cette émission réalisée par
François Bernard
pour Radio Alternante. On termine avec une des deux chansons qui accompagnent le livre, paroles de Jean-Paul Barbe, composée et chantée par Marc-Alexandre Gouraud. Merci de votre écoute et à bientôt.
Tout le village est dépeuplé. Les hommes, les femmes ont emporté. Au mât des veines, au mât dévié, vers la mer grande nous ont traîné, aux marchands blancs nous ont livré, et tous ensemble ils ont trinqué. Oh ma crevette, oh ma crevée, dans le bateau nous ont tassé, tête bêche, ventre et pied. Essaye un peu te dévier. Oh ma fredaine, oh ma fierté. Gamelle emplie, gamelle vidée, et pas un regard de pitié. Brinzingue, ils sont tous dézingués. Oh galère, oh gabier, oh gué, sur les navires nous font danser. On tourne, on vire, il faut crier. Va donc les amadouer, oh madoué. Quand est-ce que si, quand est-ce que ça, que ce long voyage s'achèvera? Sur terre ferme, faut trimer des morguenées jusqu'aux soirées. Après, dans le clapier, viendront nous resserrer. Compère lapin, viens que tu vas nous les défier. Beauté, montée dans les uniers. Et chat, haïté, chaloupe, chaviré. Calembredaine, calendrier. Nouveau pays, faudra créer. Vider, chantier, panier, trouer. Va savoir où se trouver. Viredondaine, viredondée. À eux les piastres, à nous la chiasse. Ils nous étampent, ils nous tabassent. Puisse donc notre diable bien les conchier. Madelonnette, madelonnée, noir la nuit, grand chandelier. Des dieux faudra réinventer. Oh mon geôlier, mon sablier, cette foutue route de Louviers. Digue d'Ondaine, digue d'Ondée.